bienvenue sur Europe 1. Tout de suite, Europe 1, partenaire officiel du tournoi de Roland-Garros. Vous êtes rendu compte, Julie, j'ai quand même parlé à Novak Djokovic.
Mais oui, on a entendu ça. Mais
le numéro 1 mondial du tennis qui parle au numéro 1 mondial de la radio.
C'est fou, hein.
Oui, je suis pas tout à fait numéro 1. Allez, numéro 2. Allez, ok. Hein, non plus. Bon, combien? 134, oui, quand même. Bon, Europe 1, revenons au sujet. Europe 1, partenaire de Roland Garros, c'est génial, mais on ne peut pas vous faire gagner de place. Disons-le aux auditeurs, il faut être transparent, il n'y a plus de place disponible. De toute façon, avec ces conditions météo, à part Mike Horn, personne ne veut assister au match. L'info du jour, c'est donc, rappelons-le, Roland Garros qui a débuté hier. Très bon timing, très bon choix, très bon timing le mois de septembre avec cette météo. On remportera donc quelques matchs. La finale aura lieu et prévue. On a eu Guy Forget ce matin au téléphone qui disait prévu la finale pour le 24 décembre. Et puis, l'autre info, c'est cet Algérien considéré à tort comme le suspect de l'attentat de Paris ce vendredi. Non, n'oubliez pas désormais ce qu'il faut craindre, ce sont donc les Pakistanais. Les Pakistanais. Donc dès qu'on vous propose des roses ou qu'on joue du Edith Piaf à l'accordéon dans le métro, mon conseil, donnez une pièce.
Merci Mathieu. Allez, on va recevoir maintenant Anne Hidalgo avec qui on va revenir sur cet attentat terrible dans l'ancienne rue de Charlie Hebdo. Bonjour Madame la maire.
Oui, bonjour à toutes les Parisiens, tous les Parisiens. Bonjour à tous, quel bonheur avons-le de se balader en bicyclette avec ces belles journées.
Oh, tu parles, oui.
Alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, attentat terrible.
Bah oui.
De toute façon, franchement, on va se parler. Vous n'êtes jamais contents, vous, les journalistes, vous, les médias.
Mais enfin, ça va pas, non?
Bah, écoutez, franchement, il faudrait savoir. Oui, vous êtes sans arrêt en train de dire le prix de l'immobilier à Paris est complètement fou.
Ah bah c'est vrai.
Dans certaines rues, oui, ne me coupez pas, Julie. Dans certaines rues, on atteint les 15 000 euros du mètre carré. Ça, vous vous plaignez. Eh bien voilà, enfin une bonne nouvelle pour les Parisiens et les Parisiennes. Dans la rue de Charlie Hebdo, le prix au mètre carré est tombé à 6 euros du mètre. Mais non, non, vous préférez voir toujours le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Il faut toujours que vous ralliez, pardonnez-moi de vous le dire.
Allez, c'est bon, merci Anne Hidalgo. Allez, on va passer de Paris à Marseille, hein, puisque c'est ça, avec cet appel à la désobéissance civile de la ville. On va appeler Michèle Roubirola, la maire de Marseille. Bonjour Madame Roubirola.
Oui, bonjour à tous.
Oh, mais enfin, mais c'est pas Michèle Roubirola, c'est encore Jean-Claude Gaudin.
Tout à fait. Merci du renseignement. C'est bien que vous informiez vos auditeurs. Oui, je suis Jean-Claude Gaudin. Hein,
oui.
Écoutez, je passais en mairie chercher juste... C'est pour ça que je prends l'antenne. Je passais chercher une pochette que j'avais oubliée.
C'est
voilà.
Ça, oui.
J'ai entendu le téléphone de Madame la maire sonner. Mm-hmm. Et par esprit de solidarité, j'ai répondu pour rendre service. Voilà, Michèle Roubirola est parti chercher un café. Je vous la passe dès son retour, rassurez-vous. Voilà. C'est passé comme une lettre à la poste. Alors, c'est à quel sujet, Madame Leclerc?
Eh bien, c'est au sujet de la fermeture des bars et des restaurants. Hein. Ça ne passe pas à Marseille. Hein.
Mais enfin, Madame Leclerc, mais de quoi parlons-t-on? C'est vital pour une nation, un bar, un restaurant, mais c'est vital, c'est un lieu de partage. Bon, accessoirement, de partage le Covid aussi, c'est vrai, mais le bar, c'est un lieu social, c'est un lieu de vie. On veut, franchement, je le dis, on veut notre mort ou quoi?
Ouais, bon, j'entends bien, mais à partir du moment où le gouvernement dit « c'est interdit », eh ben on ferme et on discute pas.
Eh ben si, nous on discute, voilà. Ainsi, parce que si on ferme les restaurants et les bars, c'est tout un pan de l'économie qui s'effondre. Savez-vous, Madame Julie, Monsieur Bétou, Monsieur Mohamed, Monsieur Vandel, qui n'est pas encore arrivé, Madame Agostini, savez-vous, Madame Julie, que 80% des ventes de cannabis se font dans les bars. Alors qu'est-ce que l'on fait si ça ferme? Je pose la question, où est la distribution?
Mais enfin, monsieur, interdit de vendre du cannabis, Monsieur Gaudin.
Comment ça, c'est... Achetez-vous, c'est interdit. Ah bon, mais écoutez, alors si ça aussi c'est interdit, alors... Non, mais franchement, c'est quoi ce gouvernement qui interdit tout? Moi, j'appelle à la désobéissance civile. Et je déclare, sur votre antenne, en direct, puisque vous aimez les scoops, monsieur Béliard, vous l'aurez, je déclare à la création de la République démocratique de Marseille et des Bouches-du-Rhône, et je nomme Didier Raoult, roi de cette République.
Ah ben, c'est une bien belle idée, monsieur Gaudin. Allez, à bientôt. Le principal suspect de l'attaque au hachoir qui a eu lieu vendredi dans le 11e arrondissement à Paris a reconnu qu'il visait Charlie Hebdo, mais le bâtiment, leurs anciens locaux, n'était plus protégé depuis des mois. Bonjour Christophe Castaner.
Oui, bonjour. Ah, oula. Non.
Vous étiez ministre de l'Intérieur à l'époque, mais oui, mais enfin.
Oui, c'est une autre époque.
Mais oui, mais pourquoi ce manque de protection ?
C'est une autre époque. C'est fini comme musique. Je crois que ce n'est plus la musique adéquate et adaptée à la situation. Je ne suis plus, rappelons-le, ministre de l'Intérieur. Merci d'avoir l'obligeance de mettre une musique qui rappelle à la fois mon attachement à la France, à mon pays, éventuellement mon attachement aux forces de l'ordre, mais surtout mon rôle de chef de file des députés En Marche. D'accord, je vois le message, je vois qu'on a envie de plaisanter dans la régie. Merci beaucoup, je le note.
Non mais on sait que ce n'est plus votre fonction, ministre de l'Intérieur, mais c'est quand même sous votre mandat qu'aucune décision de protection du bâtiment n'avait été prise, alors que le procès démarrait.
Écoutez, oui, j'admets que nous avons sous-estimé la bêtise des terroristes. Nous savions qu'il pouvait y avoir des gens assez cons pour attaquer à nouveau Charlie Hebdo, mais nous n'avions pas anticipé qu'ils seraient suffisamment cons pour se tromper d'adresse. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose. En dessous de 19 de QI, le quotient intellectuel, nous arrêtons les surveillances. Parce que si on doit surveiller tous les débiles de France et du Pakistan, on n'a pas fini.
Eh bien, merci Monsieur Castaner.
Merci à vous et puis au revoir. S'il vous plaît, la régie. Méfiez-vous quand même, je rappelle que j'ai des dossiers. J'étais ministre intérieur.
À bientôt, monsieur Castaner. Allez, on passe à la Guadeloupe maintenant. Là-bas aussi, les restrictions sont renforcées. Bars et restaurants fermés, accès aux plages limité. On va faire un point en se connectant à la matinale de BFM TV avec Christophe Delay.
Chers téléspectateurs, bienvenue sur BFM Télé, première chaîne info de France. La Guadeloupe touchée par le Covid et des mesures parmi les plus restrictives de France. On en parle tout de suite après un jingle spécial situation sanitaire en Guadeloupe. Nettoyer, balayer, astiquer, que ce soit toujours pimpant, respecter les gestes barrières, l'hygiène est importante, nous l'avons compris. On retrouve tout de suite Patrick Sauce et son binôme Lionel Béarnaise en direct d'une plage de Guadeloupe. Patrick, vous m'entendez, Patrick?
Oui, Christophe, je vous entends, nous vous entendons parfaitement. Je suis bien arrivé ici en Guadeloupe et nous travaillons à comprendre la situation qui est complexe, dramatique ici sur place, sur le terrain, puisque nous ne pouvons pas aller à la plage et bronzer qu'à partir de 14h30. Les cocktails, ici, il faut le savoir, ne sont pas servis au bar. C'est le barman Ferdinand à l'hôtel qui les prépare directement pour les consommateurs dans une gourde. Lionel, tu peux retourner les poissons sur le barbecue, ils vont cramer là. Voilà. Je serai professionnel, nous serons professionnels, toute l'équipe son et image ici, puisque nous avons décidé de rester sur le terrain encore 2 semaines.
Non mais qu'est-ce qu'il fout l'autre là avec son copain? Nous avons notre directeur d'antenne, Marc-Olivier Fogiel, qui souhaite intervenir en direct.
Qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce qu'il faut avec son copain glandé sur la plage? Bon, vous allez profiter ça tous les deux, examiner en votre bureau les chiffres de la situation dans un hôpital en Picardie, si le travail vous gêne pas trop. En Picardie, voilà, ça va vous faire les pierres. Julie, tu m'entends?
Bah oui, oui,
Julie,
oui.
Non, mais tu comprends pourquoi autant d'entreprises rejettent le télétravail là,
bon courage, Marco, c'est ça, quand on est patron. Oui. Et puis, hier a débuté le tournoi de Roland-Garros. Bonjour Nelson Montfort.
Oui, bonjour la team du morning. Une nouvelle fois, j'interviens. Bienvenue à ce Roland-Garros en octobre. Une brillante idée, puisque nous pouvons le voir sur les prévisions météorologiques. Il va flotter toute la semaine, Roland-Garros nous l'a confirmé. Avant, ça aurait été une très très belle, très très bonne nouvelle pour les joueurs français de ne pas jouer à cause de la pluie. C'était l'assurance de passer au moins 5 jours dans le tournoi. Mais là, Là, il faut l'avouer, pas de bol, cette année, il y a un toit sur le centre. Ils vont pouvoir se faire sortir même pendant un orage.
Alors, Covid oblige, 750 personnes sont tirées au sort chaque jour pour assister au match.
Voilà, vous l'avez dit, monsieur Julie, 750 personnes tirées au sort, c'est le tirage du Roland. C'est comme le tirage du loto, mais au lieu de gagner 150 millions d'euros, vous gagnez le droit de regarder un show Polavlov contre Gasquet et bien sûr le droit d'attraper le Covid à tous les coups.
Enfin, pourquoi vous dites ça? Le Covid,
ah bah écoutez, franchement, quoi, moi j'y suis allé. Avec le toit en verre, au-dessus du central, plus l'humidité. Je dois vous le dire, le Philippe Châtrier, c'est une véritable serre à virus.
Oh là là.
Si vous voulez la voir à tous les coups, participez au tirage du Roland. Je crois que nous avons un souci.
Mais qu'est-ce qui se passe, Nelson?
Eh bien, écoutez, avec la pluie, ma chère Julie, la terre battue. Oh là là, le pauvre. Oh non, je ne veux pas voir ces images. Le pauvre. La terre battue s'est transformée en véritable sable mouvant. Excusez-moi, il y a Raphaël Nadal qui vient de s'enfoncer de 3 mètres en montant en filet. Raphaël, là, attendez, je lui lance une corde. Raphaël, prenda la corda. Viens à qui? Ok, quel Roland Garros d'Imiarda.
Bonjour, monsieur Julie, bienvenue sur Europe 1, chers auditeurs. L'info du jour, ce sont les salles de sport, nous l'avons dit, qui ont fermé depuis 48 heures. Et du coup, c'est vrai que j'ai pris 7 kilos à cause de cette fermeture.
Ouais.
Bon, c'est vrai que j'avais commencé à grossir un petit peu avant, mais ça me fait quand même une bonne excuse. Et puis en plus, j'ai des bonnes dents, des belles dents. Alors je croque tout. Bon, là, je suis malade ce matin, chers auditeurs, sur Europe1.fr, j'ai mis des rayures. Ça m'amincit beaucoup.
Ah oui, rayures verticales, oui, c'est ça.
Ça me fait plus filiforme.
Bref, ça marche bien.
On va parler que de moi ce matin. Bref, on va tous prendre, il faut le dire, 10 kilos cet hiver. Non seulement on ne va plus draguer dans les bars qui sont fermés, et du coup on va se laisser aller. Ça sent la grosse chute de natalité en 2021 et que tout le monde change, c'est ça aussi, plus personne voudra ken personne. Voilà. Et puis, l'info sport. On en parlait avec Virginie Fulpin, avec Corinne Boulou, c'est Roland Garros, c'est Gaël Monfils qui. Et c'est une nouvelle qui a révolutionné la saison de tennis, qui a été, c'est fou, éliminé au premier tour. Belle régularité du français. Il réussissait à perdre en juin, maintenant il perd aussi en septembre. Il a même été éliminé plus vite que d'habitude. En fait, c'est un joueur qui a la défaite équipé 5G. Voilà, éliminé 10 fois plus rapidement que les autres.
Merci Mathieu. On l'a appris ce week-end, Michel Drucker a subi une petite opération du cœur. On va recevoir Gérard Depardieu, qui est un ami de longue date de Michel Drucker.
Oh, salut la compagnie.
Salut non, Gérard.
Salut Béliard, salut Cameron, salut Bitt. Oh, le docteur Jimmy Mohamed. Il a pris ma tension quand je suis arrivé. Ça va, ça baisse. Je suis plus qu'à 37-12.
Gérard, vous vouliez dire un mot à Michel Drucker,
il
qui va bien.
Il plaît ce prénom,
hein.
Gérard. Hein,
oui. Je le pratique régulièrement. Donc,
vous vouliez... un témoignage.
Vous vouliez dire un mot à Michel Drucker. Il va bien, hein, on rassure tout le monde.
Oui, ça fait des années que je lui dis à Mich, mais ma couille, arrête avec tes conneries de sport et d'eau minérale, tu te fous ta santé en l'air. Hein. Dis-leur, Laurent, regarde-le, le Cabrol, il picole, il est en pleine forme. Hein. Il n'a pas cru le gros GG, mon Drucker. Résultat, qui c'est qui est à l'hosto devant une purée de brocoli? Ben c'est Mich. Oh, c'est Michi. Et qui c'est qu'au bistrot devant un gigot pour 4 personnes? Oh, c'est Bibi. Hey, Michel, arrête tout. Le sport, je te le dis, c'est de la merde.
Oh là.
Allez, je file, je vais aller boire un coup avec Bigard. Oh, j'espère que j'ai pas trahi un secret en révélant que Jean-Marie aime la Bibi.
Pas vraiment, non. Allez, on embrasse Michel Drucker. Merci Gérard Depardieu. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, s'est prononcé en faveur de procès, oui. Et une justice entièrement filmée et diffusée. Et il est avec nous ce matin. Vous déplorez qu'on n'ait jamais filmé et diffusé les procès jusque-là, maître?
Oui, madame. Pourquoi? Notamment parce que, lorsque je plaidais, j'étais en toute modestie le meilleur, madame. À la fin des plaidoiries, savez-vous que j'allais en sanitaire pour m'embrasser dans les miroirs. Je me disais, Eric, mon Eric, tu étais bon, tu étais très bon, mon champion. Et que des plaidoiries telles que celle-ci, de cette qualité, madame, le grand public n'ait pas pu les voir, Sincèrement, ça me rend malade. Quel gâchis, disons-le. Oui, un plaidoirie de qualité, mon cul.
Ah, Patrick Balkany, bonjour. C'est vrai que c'est Éric Dupond-Moretti qui vous avait défendu.
Oui, ah, mais ça, je m'en souviens. Puis résultat, j'ai pris 3 ans de cabane. Alors, les plaidoiries du champion, merci bien.
Non, mais c'est peut-être que vous étiez un petit peu coupable aussi, non?
Un petit peu coupable. Non mais attendez, Leclerc, de quoi je me mêle là, hein? On ne commente pas une décision de justice.
Ah,
bref,
moi
je regrette qu'on n'ait pas filmé mon procès, hein, pour vous montrer le niveau de nullité de Dupond-Moretti. Ah ben écoutez, quand ton surnom c'est Acquittator, tu te débrouilles pour faire honneur à ta réputation. Là, j'ai passé, monsieur Béliard, des semaines à manger de la bouillie froide dans une cellule de 4 mètres carrés. Non, vraiment, c'est un gros nul, Dupond-Moretti.
Bon, ben on va pas les réconcilier tous les deux. Hein. Passons à autre chose. Emmanuel Macron qui a poussé un gros coup de gueule contre la classe politique libanaise. Les principaux chefs de parti ont échoué à se mettre d'accord pour former un gouvernement, contrairement à ce qu'ils avaient promis, pour obtenir une aide financière internationale. Mmh. Bonjour, monsieur le président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. À tous les gouvernants qui gouvernent, aux dirigeants qui dirigent, aux politiciens libanais qui, eux, ne sont pas foutus ni de diriger, ni de gouverner. Vraiment une bande de blaireaux. Pardonnez-moi d'être trivial, mais j'ai honte pour cette classe politique. Il me dégoûte.
Alors, vous aviez demandé un gouvernement libanais composé de ministres qui devaient être, je cite, « indépendants et compétents ».
Voilà, voilà. Et même ça, ils ne sont pas foutus de le faire. Alors, bon, je sais, je suis réaliste, je sais que parfois on a du mal à avoir des ministres compétents. J'ai eu Muriel Pénicaud, Christophe Castaner, j'ai eu Colette Ndiaye. Je pense à Colomb de Rugy. Bon, enfin, je réalise quand même que j'ai eu une belle bande de clowns. Bon, enfin, quand même, il doit bien exister une demi-douzaine de politiciens compétents au Liban. Merde, vous allez voir que je vais encore devoir faire tout moi-même. Mais vous savez, s'il faut que je sois aussi président du Liban, par intérim au moins, ça ne me fait pas peur. C'est une passion pour moi, la politique.
Et vous avez également réclamé le départ du président biélorusse.
Oui, là aussi, ça suffit, franchement. Il est totalement incompétent. Il y a personne pour le remplacer. Mais vous savez, la Biélorussie, en plus du Liban et de la France, si vraiment il faut s'y coller, ben, je suis plus à ça près. Hein,
et avec la Turquie, les relations sont toujours tendues. Et la Turquie
Erdogan,
aussi.
Erdogan, n'en parlons pas, mais moi je pense qu'il faut le remplacer, Erdogan, au plus vite. Vous savez, non mais je peux m'y coller, vous savez, après la France, le Liban, la Biélorussie, la Belgique aussi, oui, parlons-en, c'est tellement le bordel en Belgique, ça irait mieux si je m'en occupais, bon bref. Je peux, très sincèrement, je connais ma capacité de travail et mon niveau de sommeil, je peux très bien garder la Turquie pour m'occuper le week-end. Non mais vous savez, les pays du monde, faut s'en occuper, faut tout leur dire, sinon ils font n'importe quoi. Franchement, je vous le dis, tous les pays du monde, on dirait, c'est tellement le bordel, on dirait la France.
Non, mais si, c'est sympa. Bon, mais au revoir, monsieur le président, bon courage hein, pour toutes ces fonctions à venir. Didier Raoult a affirmé que des médecins des hôpitaux de Marseille diffusaient des messages trop alarmistes. On va en parler avec la maire de Marseille, Michel Rubirola, qui elle aussi est médecin et homéopathe.
Non mais écoutez, non mais Julie, arrêtez un peu avec la mère Michel. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de la vie, oui merci de votre bonne note. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de la vie d'une homéopathe sur des questions médicales de plus haut Est-ce qu'on demande, non mais oui mais franchement il faut remettre l'église au milieu du village, est-ce qu'on demande à Aya Nakamura son avis sur les décisions de l'Académie française? Non. Hein, où est-ce qu'on demande à M. Cabrol s'il préfère la Badoit, la Vichy Saint-Dior ou la Cristalline? Non. Il faut poser les bonnes questions aux personnes.
Voilà. C'était encore Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de Marseille. On n'aura jamais la nouvelle. Hein.
Oui, là, pardon, mais c'est à moi d'intervenir. C'est à moi. Moi qui ai soutenu Didier Raoult corps et âme. Moi, souvenez-vous, qui ai songé même à lui édifier une statue en marbre rose. Moi qui ai voulu fonder une église à son nom. Mais là, je le dis, je m'adresse à lui directement. Didier, Saint-Didier, mais qu'est-ce que tu fais? Tu critiques des médecins d'hôpitaux marseillais.
Mais enfin, mais tu n'es pas censé faire cela. Tu devais dire qu'à Marseille, on avait raison et qu'à Paris, c'était des cons. On te soutenait, on te croyait en toi et là, tu nous trahis. Non, je le dis, Saint-Didier, ressaisis-toi.
Allez, on va vous laisser. Merci, monsieur Godin. Bah, à bientôt, hein. C'est gentil, oui. Certainement. Bon. Allez, pour terminer, on va retourner à Roland-Garros. Alors, comment ça se passe, Nelson Monfort?
Oui, on met... Quel est le con qui a eu l'idée de faire Roland-Garros en décembre, franchement.
Non, mais on vous entend, là, au Nelson.
Franchement, on n'a pas...
Nelson, oui. Ah, pardon. Excuse-moi, on vous entend, vous êtes sur Europe 1, là.
Sur Europe 1, en ligne, oui. Allez. Oui, ma chère Julie, et quel bonheur d'être ici pour couvrir Roland-Garros. Quel événement, Roland-Garros, où malheureusement, les conditions, légères conditions météorologiques ne sont pas idéales. Chaque jour, les organisateurs scrutent la météo en espérant que cela va bien se passer.
Mais... C'est plus du tout important la météo, il y a un toit à Roland-Garros.
Oui, mais écoutez, ce que l'on craint réellement, c'est qu'il neige. Et si la neige s'accumule sur le toit du central, le toit peut s'effondrer sous le poids et tuer Raphaël Nadal sur le coup.
Eh ben, allez dedans, ça a l'air chouette l'ambiance là-bas.
Non, pas du tout, c'est horrible, disons-le. Déjà, non, je vais vous faire une confidence, ma chère Julie, nous nous connaissons depuis suffisamment longtemps. Déjà un match Krajinovic contre Kratchanov en été avec du monde, c'est chiant. Mais alors là, dans un automne pluvieux avec personne dans les tribunes, c'est à se flinguer. Voilà, ne mettez surtout pas un dépressif devant France 2 cette année. Voilà, c'était Nelson Monfort depuis Roland-Garros, sponsorisé par la Cos BNP Xanax.
Sonia Mabrouk est son invité.
Oui, bienvenue à vous et bonjour Eric Ciotti.
Bonjour Maman Brooke.
Eric Ciotti, vous êtes rapporteur de la commission sur le Covid, c'est bien cela?
Oui, tout à fait Maman Brooke, je suis... le petit rapporteur, hommage à Jacques Martin. Voilà, ça fait sourire Madame Leclerc. Vous, Monsieur Béliard, vous n'étiez pas né.
Alors, Richard, la situation sanitaire est grave. Vous soutenez les mesures restrictives du gouvernement, Eric Ciotti?
Oui, vous me verrez toujours soutenir le gouvernement lorsqu'il prend des mesures restrictives. D'autant que ce n'est pas fini, parce qu'après l'automne, je vais vous donner un scoop, c'est l'hiver. L'hiver qui arrive. Mais on n'y comprend rien dans ces mesures. C'est là où je ne suis pas le gouvernement. Les piscines sont ouvertes, les salles de sport fermées, on incite à aller aux journées du patrimoine, les restaurants sont fermés, c'est un restaurant à salade, c'est ouvert. Les salles de sport sont fermées. Oui, j'ai déjà dit salles de sport fermées. Oui, mais vous savez, je pratique le bodybuilding. Oui, regardez. Mais vous pouvez toucher, Maman Brooke. Regardez, j'ai tout perdu en 4 jours. De plus, on a sacrifié nos aînés. On...
Sacrifié nos aînés? Oh là là, sacrifié nos aînés, leur bon effort.
Oui, on les a sacrifiés. On a perdu 15 000 personnes. Vous savez, ce sont nos électeurs. Hein, les gens, quand ils sont âgés, votent souvent à droite. Demandez à Mme Leclerc. Vous verrez, ma brouille dans 2 ans.
Alors, oh, s'il vous plaît, monsieur Ciotti, attention. Monsieur Ciotti, le mineur qui avait commis cet attentat n'avait pas 18 ans, il avait 25 ans. Faut-il pratiquer les tests osseux?
Oui, écoutez, à titre personnel, vous savez, c'est un test efficace. Moi, j'ai pratiqué le test osseux. J'avais 13 ans. On m'a dit qu'à 20 ans, je mesurais 1m96. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas très fiable. J'ai une marge d'erreur, certes, mais que de 44 cm, puisque je fais 1m52 en chaussettes. Oui,
en chaussettes.
Ça me fait gagner. J'aime les chaussettes d'hiver, même en été, ça me fait gagner 1,5 cm à 2 cm. Donc, je le dis, les tests osseux, pourquoi ne pas les utiliser? C'est l'appel que je lance.
Merci Eric Ciotti.
Merci à tous les deux.
S'il vous plaît, vous pouvez m'aider à descendre de ma chaise. Voilà. Je vous rends votre coussin et l'annuaire.
Et l'annuaire. Merci beaucoup. Allez Mathieu, vous voulez bien prendre la suite, hein? Allez.
Oui,
on y va.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Welcome to Europe 1. Welcome dans le 7-9. Oui, on est américain, vous l'avez compris.
Ouais.
On est américain. Ce matin, car l'info du jour, c'est le premier débat qui a eu lieu cette nuit aux États-Unis. Débat entre Donald Trump et Joe Biden, respectivement, 74 et 77 ans. Aux États-Unis, je crois qu'ils appellent ça un débat. Nous, on appelle ça une partie de bridge. Les deux candidats sont copieusement insultés. On a entendu des extraits ce matin sur Europe 1. Oui, on aurait dit la fin d'un match PSG-OM en moins violent, bien sûr. Ils sont 150 ans à eux deux, et à part un lancer de dentier, ça pouvait pas être vraiment spectaculaire, soyons honnêtes. Et puis l'autre info, ce sont les 28 000 suppressions de postes chez Disney. Malheureusement, aux États-Unis, il y a un Donald qui a encore du travail.
Ah, voilà. Non, bien.
Oui, elle était facile, mais elle était tentante.
Non, elle est super.
Ouais. Non, c'est vrai, regardez, j'ai ma liquette Disney rose et blanche en plus ce matin.
Ah, la liquette Disney. Allez, merci
Mathieu.
Julie. Oui. La presse parlait hier du problème des mineurs isolés. Vous savez, ces délinquants mineurs qui traînent dans les rues et que la police ne peut pas incarcérer. Bonjour François Bayrou.
Et bonjour.
Alors vous êtes haut commissaire au plan, chargé de penser la France de dans 30 ans. J'imagine que la délinquance des mineurs est un sujet qui vous touche.
Madame Julie.
Bien.
Et monsieur. Merci. Et monsieur Béliard. Les autres, dont je ne connais pas tous les patronymes, tellement il y a de renouveau chez vous.
Oui, non, allez.
Et j'ai eu une grande idée pour la France.
Oui.
Et je suis en mesure de vous dire que dans 30 ans, il n'y aura plus de mineurs délinquants.
Ah, bah c'est génial. C'est quoi votre super idée alors?
Eh bien. On attend 30 ans. Car dans 30 ans,
oui.
Un mineur de 15 ans aura 45 ans. Il ne sera donc plus mineur. Délinquant peut-être, mais plus mineur.
Ah bah, il sera un délinquant de 45 ans, voilà.
Ouais, mais la moitié du problème est...
Sur ce problème des délinquants de 45 ans, je n'y ai pas encore réfléchi. Ah bah. Mais si on a 30 ans de plus, ils auront 75. Donc ce seront personnes âgées délinquantes, ce qui est beaucoup plus rare. Chaque chose en son temps.
Eh bien, on a bien avancé avec vous, monsieur Bayrou.
Voilà.
Merci d'être venu.
C'est bien de prendre le temps.
On en vient à ce scandale à la SNCF.
À des bientôt. À
la SNCF, des contrôleurs ont caché qu'ils étaient porteurs du coronavirus afin de ne pas perdre leur salaire en se mettant en arrêt maladie. On va en parler avec notre délégué syndical SNCF, monsieur Régis.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les wagons. Alors, on fait moi les malins. Hein, on ravale les insultes. SNCF, c'est tous des feignasses. La SNCF, on pense qu'à glander, faire la grève. Eh ben non, vous les médisants là, quand on travaille à la SNCF, on bosse même quand on est malade. Voilà.
Non, enfin, mais c'est
on est malade, mais on travaille.
Et dans le contexte actuel, c'est inconscient. Pourquoi ils font ça?
Parce qu'on leur ordonne de pas travailler. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? C'est des rebelles. Ils travaillent. Nous, la SNCF, on est des rebelles. Quand on nous dit qu'il faut travailler, on travaille pas. Quand on nous dit pas travailler, on travaille. Voilà. Et comme ça, on fait la grève là du pas travailler. Et la grève du pas de travail, c'est le travail.
Ouais, vous êtes un petit peu difficile à suivre hein, quand même.
Vous voulez que je m'en aille?
Bah oui.
Alors demandez-moi de rester. Parce que la grève du rester, c'est de partir.
Bon ben, restez.
D'accord, je m'en vais.
Oh là là, c'est compliqué votre truc là. Allez, Ségolène Royal va intervenir régulièrement sur LCI, l'ancienne candidate à la présidentielle. Reviendra régulièrement sur le plateau de l'émission En toute franchise le dimanche soir. Bonjour Madame Royal.
Oui, bonjour. Bonjour Madame Julie, Monsieur Montmeud, Monsieur Béliard, Monsieur Cobrol. Oui, écoutez, je commence une nouvelle carrière. Hein, chroniqueuse télé. Vous pourriez me retrouver sur LCI. LCI, vous êtes au cœur de l'info. Voilà, c'est notre slogan. Vous voyez, je suis corporate. Hein, on n'écoute pas le monde changer, nous. Hein, on n'est pas passif à écouter le monde changer. Hein, le cul vissé sur notre chaise à écouter bêtement. Hein. Non, nous, on met les gens au cœur de l'info. Hein, bande de ploucs.
Oh, mais dites, restez polis. Hein. Alors, pourquoi
sont belles vos affiches, votre campagne publicitaire.
Bah, très belle. Alors, pourquoi avoir accepté ce poste de chroniqueuse, Ségolène Royal?
Non, je pense.
Oui, non, mais elle répondait à la question. Hein, pourquoi vous avez accepté ce poste chroniqueuse sur LCI?
Écoutez, je vois que les ponts entre les médias et la politique, soyons observateurs, les ponts entre les médias et la politique permettent de faire des allers-retours riches d'expériences. Vous voyez, Éric Dupond-Moretti, Roselyne Bachelot, forcément, ça inspire. Écoutez, le parcours de Roselyne est intéressant. Hein, tous les Français se moquaient d'elle, elle est partie faire chroniqueuse sérieuse. Puis chroniqueuse rigolote, puis membre des grosses têtes à raconter des histoires belges. Et le bilan, quel est-il? Retour au gouvernement avec une popularité. C'est difficile à dire, oui, parce qu'il y a beaucoup de paix.
Une popularité
gonflée à bloc. Voilà. Ouais, du coup, ouais. Moi, ça m'a inspiré. Ce parcours m'a inspiré. Inspirant, je trouve.
C'est une stratégie pour vous, ça, alors?
Oui, c'est inspirant. Voilà, si nécessaire, j'ai la fibre pour faire partie de la bande à Laurent Ruquier. Hein. vous connaissez mon côté rigolard et déconneuse. Tenez, j'ai une bonne blague. Si vous me permettez, c'est pas tous les jours.
Allez-y.
Alors, c'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une table, puis dans une chaise, puis dans un piano.
Oui, non, mais merci, on a
dans
compris.
Un flipper.
Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est Ségolène Royal. On a compris. Elle est irrésistible, cette blague.
Oui, je sais. On me l'a confirmé. Elle ne cherche pas des chroniqueurs, Anne Roumanoff.
On va lui en parler.
Sur votre antenne, je fais une demi-saison de blagues et puis après, hop, je bascule, je repars à la conquête de 2022. Donc, du coup, c'est gagnant-gagnant pour Europe 1 comme pour moi.
Bonjour à tous, ma chère Julie, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Merci Sonia pour cette interview de Thibaut de Montbrial qui nous a appris qu'on allait avoir plein d'attaques terroristes à l'avenir. C'est bien, c'est tout ce qui nous manquait pour bien finir 2020. Enfin, voyons quand même le bon côté des choses. C'est vrai qu'il pleut, il y a le Covid partout, mais heureusement, on va tous mourir du terrorisme avant. Voilà, allez, c'est bien parti pour cette matinale. L'actualité, c'est bien sûr Olivier Véran qui devrait annoncer de nouvelles mesures restrictives ce soir et probablement la fermeture des restaurants parisiens. À ce sujet, Philippe Etchebest a défendu les restaurants en voulant nous rassurer sur les mesures d'hygiène. Mais franchement, Julie, je veux dire, entre vous et moi, il est gonflé, Philippe Etchebest. Ça fait 10 ans que tous les jeudis soirs, dans Cauchemar en cuisine, il montre que toutes les cuisines de France sont dégueulasses, qu'il filme des chefs qui font tomber de la mort au bras dans leurs plats, qui ont des souris et qui font des crottes dans la tarte aux abricots. Et maintenant, faudrait le croire quand il nous dit qu'il n'y a aucun problème d'hygiène dans les restos. En tout cas, ce soir, ce ne sera pas top chef, vous l'avez compris, mais top chômeur, apparemment. Et puis, l'autre info, ce sont les taxis. Les taxis volants, nous l'avons dit, qui sont prévus à Paris pour 2024. Alors, à ne pas confondre avec les taxis voleurs qui, eux, sont déjà là et qui emmènent les touristes de Montmartre à Châtelet en passant par le périph'. Vous prenez le taxi ce soir en sortant, Julie? Mais pardon, excusez-moi.
Ah ben là, voilà.
Je m'inscris en faux sur les taxis voleurs que je respecte. Monsieur Béniard, en tant que maire de Paris, moi, Anne Hidalgo, j'annonce que s'il y a la création de taxis volants, eh bien, de façon concomitante, je crée des vélos volants, juste pour emmerder la circulation des taxis volants. Merci madame Hidalgo. À vous, Julie.
Merci beaucoup, Mathieu. Des embouteillages dans le ciel maintenant. Allez, à Paris, il y a donc eu cet énorme bruit hier, causé par un rafale qui a franchi le mur du son. Un événement somme toute insolite, décrypté toute la journée d'hier sur BFM TV.
Mais non, mais ça va, Julie. C'est bon. Hein, on a suffisamment parlé. Inutile de remuer le couteau dans la plaie, Julie. Tu seras sympa. Merci.
D'accord, bonjour. Marc-Olivier Fogiel, c'est vous qui dirigez maintenant BFM TV. C'est vrai, ça ne vous a pas plu la manière dont vos journalistes ont traité l'info. Hein.
Non mais tu rigoles ou quoi, Julie? Il y a le débat entre Trump et Biden pour contrôler quand même la première puissance mondiale. On a la crise sanitaire comme sujet, on a l'attaque sur Charlie Hebdo. Et mes journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'apéro tranquille sur mes plateaux pendant 8 heures d'affilée en parlant du gros avion qui a fait boum. Non mais ils m'ont fait venir, ils m'ont fait venir 4 généraux de l'armée de l'air, 6 experts de l'aviation civile, 3 ingénieurs du son et 2 pilotes de chasse. J'en ai eu pour 7 600 balles. Regarde, j'ai la note là. 7 600 balles de taxi. Oula. Pour rembourser. Hein, pour qu'une bande de glandus raconte leur petit voyage en avion. Non, mais merci les feignasses.
Merci Marc-Olivier.
Je t'en prie.
Jean Castex, notre Premier ministre, recevra aujourd'hui les différents maires de France pour discuter des mesures à prendre pour empêcher que la Covid-19 continue à se répandre. On est en ligne avec lui. Bonjour Jean Castex.
Bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Béliard, à tous vos collaborateurs de la rédaction. Effectivement, en tant qu'élu local, Il est normal que je reçoive les élus locaux des grandes agglomérations de notre beau pays. J'attends donc de ce pas et les maires de Paris et de Toulouse, de Lyon, de... Ah, attendez, excusez-moi. Ah oui. Oui, je vous en prie, entrez. Oui, bonjour, monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour, monsieur Collomb, je vous reconnais. Oui, excusez-moi de vous déranger. Je suis, comme vous le savez, maire de Lyon. Et je pense qu'il faut... instamment fermer les bars, les restaurants, les salles sport.
Gérard Collomb, mais... non, attendez, vous n'êtes plus maire de Lyon. Vous avez été remplacé par l'écologiste Grégory Doucet. Allons, non,
mais de quoi je me mêle. Mais arrêtez de rapporter tout. Vous tenez vraiment à ce que celui qui prenne des décisions, ce soit l'autre là dont vous avez cité le nom, l'écologiste.
Mais Doucet, oui.
Franchement, je prends Madame Agostini à témoin. Les Verts, c'est des cons. Grégory Toussaint, là, ou je ne sais qui.
Non, Doucet.
Ouais, mais il va dire que tout va bien, hein, qu'on peut soigner, c'est ça, les Lyonnais avec des décoctions de fenouil ou de l'huile essentielle de mandarine, alors que la situation est grave. Moi, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas envie de me retrouver avec un tube dans la gorge parce qu'un hippie, venu de je ne sais où, aura voulu nous protéger du Covid avec du beurre de karité. Non, déjà que je vais tout vous dire, je ne me sens pas très bien.
Comment ça, alors, vous vous sentez pas très bien?
Écoutez, j'ai des symptômes inquiétants.
Ah.
Oui, je suis comme Bruno Le Maire. Mmh. Je suis incapable de courir 30 kilomètres.
Ah bon?
Oui, quand j'essaye, je peux vous montrer, quand j'essaye de courir, dès le démarrage, vous voyez, je prends appui sur ma jambe gauche.
Oh non, arrêtez.
Putain de virus.
Ah bah comme vous dites, oui. Merci Gérard Collomb. Allez, on va revenir sur le débat entre Donald Trump et Joe Biden. Débat qui a été un véritable pugilat entre les deux candidats, âgés de 74 et 77 ans. D'ailleurs, on me dit dans l'oreillette qu'une experte souhaite livrer son analyse sur notre antenne. Allô? Allô, bonjour madame, vous êtes experte en politique américaine, c'est ça? Allô?
Oui, ah, je suis en ligne, pardon, maman.
Eh ben alors...
Oui, c'est Christiane.
Ah bon?
Oui, c'est la secrétaire médicale à la maison de retraite des Pétunias de Bordeaux-Mérignac. Attendez. Non, je ne suis pas experte en politique américaine. Ah ben je suis experte en bagarre de vieux. Attendez, ah, attendez. J'ai un double appel, je vous fais patienter en musique.
D'accord.
Il avait des cheveux tout blancs.
Papy.
Mais il avait des yeux d'enfant. Papy.
Voilà. Bon, bah, écoutez.
Pardon, mais... je suis à vous.
Ah, voilà.
Oui, je suis à vous.
Dites-moi, comment
Christian
vous l'avez
trouvé? Pareil, je Christiane. Vous écoute. Ah, c'est vous, Julie, pardon. Oui.
Alors, comment vous l'avez trouvé, ce débat, hein? Les deux candidats ont été odieux, non?
Oh non,
ah
non,
bon,
non, non. Moi, j'ai trouvé M. Trump et M. Bidet très courtois. Hein, mais... Oh non, oh non. Non, ici, si vous saviez, on a bien pire, vous savez. Il faut savoir, par définition, un vieux, c'est méchant. Hein.
Ah.
Ah oui, ça insulte, ça mord. Bon, ça fait pas mal, parce qu'on ne sent que les gencives, mais ça mord.
On revient au débat, là. Mais qu'est-ce que vous en retenez, vous, Christiane?
Oh, écoutez, quand vous regardez deux candidats américains, vous dites qu'il faut vraiment reposer la question cruciale de la fin de vie.
Ah.
Est-ce que c'est humain de laisser deux personnes de cet âge s'humilier comme ça en public?
Vive les Américains, n'est-ce pas? Vive Donald Trump!
J'ai Monsieur Le Pen qui commence à faire des siennes.
Vive les Trumpistes! Non, vive non, les murs contre les chicanos!
Non, Monsieur Le Pen, arrête! Oh, c'est terrible la sénilité.
Oh là là.
Moi, je crois qu'il faut apaiser certaines souffrances au plus vite.
Bon, ben, allez, à bientôt, Christiane. Bon courage, hein, parce que c'est pas simple, hein, pour vous. Allez, pour terminer, on va filer à Roland Garros, je crois. Oui, c'est ça. On va faire un petit point. Les gradins sont vides, ce qui tombe bien d'ailleurs, puisque les joueurs ont besoin de silence. À ce sujet, non mais écoutez bien, à ce sujet, lors d'un match, les joueurs et l'arbitre ont demandé à Nelson Monfort de se taire, car il faisait ses commentaires trop forts. L'un des joueurs l'a même visé avec une balle. Nelson, bonjour. bonjour.
Oui, écoutez, ma chère Julie, ce sont des, ces petites histoires, ces petites anecdotes qui font tout le sel d'un Roland Garros. Mais allez, remettons-nous au travail, oublions cette péripétie, puisque ce matin, c'est un match absolument passionnant dans ce tournoi fantastique à Roland Garros, un tournoi qui, évidemment, marquera l'histoire du sport, puisque nous allons...
Ta gueule,
oui. Il dit. Oui, pardon. Oui, pardon, un tournoi qui marquera. Excusez-moi, je suis un petit peu emballé. Qui marquera l'histoire du sport, car. Oh là là, quel revers, ma chère Julie, c'est extraordinaire.
Mais tu vas la fermer, de ta gueule. On bosse là. On n'est pas là pour rigoler, putain.
Oh là. Non, mais restez polis tout de même. Non, mais jeune homme, je fais mon métier. D'accord ? J'essaye de donner envie aux gens de regarder votre tournoi de merde où il n'y a personne et où il pleut. Mais ma chère Julie, non mais qu'elle s'engêne, franchement. En plus, vous l'avez entendu, c'est un Français. Comme si j'allais, moi, faire paumer un joueur français. J'y arrive très bien tout seul. Alors, franchement, on n'a pas besoin de quoi ? Oui ?
Mais ferme-la, mais boucle-la. Patrice. Passe-moi une balle là, que je vais en mettre une dans la gueule là, putain, c'est pas vrai.
Oula.
Raté. En même temps, quand on est même pas foutu de mettre une balle dans un carré de service grand comme un appartement, on essaye pas de viser une tête, gros nul. Alors, ils m'ont saoulé, je préfère passer le flambeau à l'homme qui vous fera le mieux, j'en suis sûr, vivre ce tournoi. Notre ami et cher collègue, Lionel Chamoulou, mon cher Lionel, tu prends le relais s'il te plaît, Lionel, j'en peux plus là.
Oui, eh bien. Merci Nelson, écoutez Monsieur Julien ici à Roland. Le tournoi se poursuit, un match qui oppose ce matin le dernier quart de finaliste du tournoi de Zurich à Nelson Montfort.
Lionel, si on pouvait parler du jeu sur le court, hein.
Oui, pardon, puisqu'on aperçoit, vous avez raison, il se passe beaucoup de choses dans les tribunes. Les camarades Fred Godard sont sur ce gros plan d'une chaise vide, à côté d'une autre chaise vide, et que la pluie fait son apparition à l'instant. Il pleut beaucoup. Jean-Paul Belmondo qui est là, fidèle au poste, et qui semble. Jean-Paul qui semble encore avoir pied. Alors qu'à l'instant, on aperçoit Patrick Bruel en paddle pour essayer de le rejoindre. Bref, un tournoi particulier avec cette décision de le faire jouer au mois de décembre. À vous, Julie.
Et Marlène Schiappa.
Oui, Marlène Schiappa est mon invitée ce matin. Bonjour Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, le discours du président Omuro, à quoi faut-il s'attendre dans ce discours ? On ne vous comprend pas, Marlène Schiappa. Oui,
ah, pardon, on est en train de m'amener un autre masque parce qu'on ne m'entend pas bien. Voilà, j'avais mon masque noir avec un éclair rouge à paillettes pour symboliser et rendre hommage aux victimes de la tempête Alex, cet éclair rouge, et puis pour rendre hommage également à mon super-héros préféré, Flash Gordon, et à mon chien rouge.
Mais on ne vous comprend pas, Marlène Schiappa. De toute façon, on ne comprend pas le gouvernement depuis le début de cette crise, Marlène Schiappa.
Non, mais si, pour être très clair, et pour répondre à votre question sur le séparatisme, il y a des trous dans la raquette, c'est vrai, les balles passent au travers de la raquette, il faut les résoudre, nous allons les résoudre.
Oui, en gros, le gouvernement, c'est un petit peu un joueur de français. À Roland Garros, c'est toujours la faute de la raquette, c'est ça, Marlène Schiappa. À vous, Julie.
Merci à toutes les deux. Bon, on a tous des masques ici, j'espère qu'on nous entend bien. Hein. Allez, tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actu.
Oui, ma chère Julie. Bonjour à tous. Et merci à Marlène Schiappa d'avoir respecté les règles sanitaires. Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1. Europe 1, l'actualité, c'est bien sûr, nous l'avons appris en exclusivité sur Europe 1, 7 minutes après la prise d'antenne ce matin à 7h, c'est Donald Trump qui est positif au Covid. Les symptômes, on les connaît, c'est l'absence de goût. Bon, dans le cas de Donald Trump, vu ses costumes trop grands, son visage orange Casimir et ses cheveux, on était au courant pour l'absence de goût. Alors, est-ce que Donald Trump va appliquer lui-même les remèdes qu'il préconisait et boire donc 1 litre de détergent, comme il l'avait dit il y a quelques mois ? On ne sait pas, mais en tout cas, on croise les doigts, on l'espère. Et puis, l'autre info, c'est la tempête Alex qui frappe la France. L'occasion de faire un point. Tiens, justement, on en parlait avec Laurent Cabrol. Laurent ?
Oh, moi, j'ai pas de masque avec un éclair. Hein. Ce matin, grand soleil partout, grand soleil partout, il fait beau. Les oiseaux chantent, il faut le dire à nos auditeurs. Le ciel est d'un bleu lumineux.
Non, mais Laurent, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais enfin, il ne fait pas beau du tout et il y a même une tempête dans l'ouest.
Oui, mais attendez,
France.
Moi je vous donne la météo de mon cœur ce matin. Il fait très beau dans mon cœur, ma chère Julie. Je suis d'excellente humeur. Hein. Olivier Véran n'a pas annoncé de fermeture de bar. Voilà. Donc tout va bien. Vos tempêtes, c'est juste, on s'en fout. Hein. C'est juste une petite brise rafraîchissante qui vivifie, disons-le, les poumons. Voilà, c'est très bien. Moi, je chante la vie, je danse la vie. Oh, Champs-Élysées.
Merci, merci Laurent, c'est pour bon. Cette bonne humeur quotidienne. Même quand il pleut, même quand il fait. Voilà. L'actualité, c'est bien sûr les annonces donc, d'Olivier Véran qui ne ferme pas pour l'instant, les bars, les restaurants, les grandes agglomérations. Il y a un paquet de verres.
Excusez-moi, mon cher Mathieu Béliard, mon cher rouleur de R, mais il faut quand même préciser une chose, Mathieu.
On vous écoute, Jean-Michel Apathy.
On a une tempête, des attaques terroristes, on a la pluie, on a le froid. Ouais. Franchement, il n'y a pas besoin de nous demander de rester chez nous. Et de toute façon, on ne serait pas sortis. Là, on est tous déprimés. Je peux vous dire qu'on a envie de rire.
Allez, merci, Jean-Michel Apathy. On va faire un point sur les annonces d'Olivier Véran. Évidemment, pour l'instant, pas de restrictions supplémentaires. La situation est cependant de plus en plus préoccupante à Paris, à Lyon, Lille ou Grenoble. On va demander d'abord son avis à un médecin. Bonjour Michel Simès.
Eh oui, bonjour Marina. Écoutez, vous le disiez à l'instant, c'est de pire en pire, mais le gouvernement ne prendra des mesures que si ça empire encore. Autrement dit, on va attendre qu'il y ait beaucoup de malades pour éviter qu'il y ait des malades. Voilà, c'est une stratégie qui consiste à faire de la prévention une fois que la pandémie est passée, si vous voulez.
Ça c'est cash. On ne vous sent pas très convaincus, cela dit.
Écoutez Marina, je vais vous prendre un exemple pour que vos auditeurs puisse comprendre, mon cher Mathieu, avez-vous eu, pardonnez-moi cette question un peu intrusive, avez-vous déjà eu un rapport sexuel?
Mathieu,
oui. Le vrai ou le faux? Je ne sais pas s'il faut répondre. Ça a pu m'arriver.
Non, mais je préfère demander, on ne sait jamais. Eh bien, ce serait comme mettre votre préservatif une fois que la dame est rentrée chez elle. Ça ne sert plus à rien. Je ne sais pas si vous étiez informé, enfin, je vous le dis.
J'ai l'image.
Vous avez déjà attrapé votre MST. Je prends des trucs, des exemples sexuels parce qu'il n'y a que ça que les gens comprennent. N'allez pas croire que j'ai l'esprit mal tourné.
Non, bien sûr. Merci Michel Simès. Olivier Véran a donc fait un point hier sur l'évolution de l'épidémie. Paris a franchi les seuils d'alerte maximum. Le gouvernement prendra éventuellement des mesures lundi si la situation devait s'aggraver.
Non, mais comment ça? Franchement.
Jean-Claude Godin, bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites là, monsieur Godin? Vous n'êtes plus maire de Marseille, c'est Michel Rubirola qui est maire.
Oui, ben justement, il s'agit bien de ça. Tiens, on s'en fiche non, de la maire Michel. Là, c'est le citoyen Godin qui parle, c'est pas l'homme politique. Paris explose toutes les cotes d'alerte, mais on ne fait rien. Alors qu'à Marseille, pour trois vieux qui toussaient, on nous a fermé les restaurants, les bars et les salles de Paris clandestines, les salles de sport.
Vous trouvez qu'il y a un deux poids deux mesures, en quelque sorte?
Deux poids deux mesures, pourquoi? Parce que vous ne trouvez pas qu'il y a deux poids deux mesures, mais c'est scandaleux que les bars parisiens restent ouverts, alors, de toute façon, franchement, entre vous et moi, je vais vous dire les choses, hein, parce que maintenant, ça commence à bien faire. Covid ou pas Covid, c'est scandaleux que les bars parisiens restent ouverts. Un 17 euros le Coca Light, servi sans un bonjour par un hipster moustachu dont les bras sont recouverts de tatouages, c'est un scandale. Moi, quand j'étais jeune, les tatouages sur les bras, ça voulait dire qu'on avait fait de la prison. Hein, aujourd'hui, ça veut dire qu'on fait des traits de vinaigre balsamique dans des assiettes carrées ou qu'on vend des jus de papaye au prix du pétrole. Non, ceux qui mériteraient la prison, c'est ce genre d'attitude. Non, il y en a assez du deux poids deux mesures.
Oh, j'aime bien les traits de vinaigre balsamique sur l'assiette.
Je peux vous le refaire.
On
oui, on fait des traits de vinaigre balsamique sur l'assiette carrée. Donc, vous avez du papaye, du pétrole.
Génial. Allez, un sondage. Vous pouvez changer le masque noir. Allez. Un sondage IFOP paru dans Marianne sur les tenues des lycéennes a provoqué un vif débat. Le sondage demandait aux Français quelles sont les tenues qu'ils jugent acceptables pour les lycéennes. Le crop top. J'arrive pas à le dire. L'absence de soutien-gorge, les jupes, toutes les tenues sont passées au crible.
Arrêtez, repentez-vous, mes créants.
Si, Philippe de Villiers, vous vouliez réagir à ce sondage.
Bonjour, femelle. Oui, je tiens à réagir, parce que c'est...
scandalisé par ces résultats.
Ah bon ? Qu'on cherche à réglementer la tenue des lycéennes, ça vous choque ?
Non mais ne rêve pas, au contraire, je suis choqué qu'il subsiste, si je lis bien ce sondage, une proportion de Français qui avoisine les 40% et qui trouve normal que des lycéennes exhibent leurs tétons, leur nombril, leur cheville et même leurs genoux. Mais enfin, mais pourquoi les lycéennes, je pose la question, tiennent tant à se déguiser en casse-croûte pour Dominique Strauss-Kahn, c'est ça ?
Oh là 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 !
Non, est-ce que la Vierge Marie là, se baladait les tétons au vent et le short au ras du sillon interfessier ?
Oh là là ! Les détracteurs de ce sondage lui reprochent de sexualiser le corps des femmes. Hein. Les femmes en ont assez de n'être qu'un corps aux yeux de certains hommes.
Non mais arrêtons de grâce, arrêtons à ce débat grotesque. Mais bien sûr qu'un homme désire une femme pour son corps et sa beauté. Il va pas la désirer pour son esprit. Non, mais vous avez déjà fait la conversation à une femme. Je vous prends un témoin, monsieur Béillard. Vous voyez bien ce que je veux dire. Cessons, vous discutez avec Sonia Mabrouk tous les matins. Cessons de nous mentir collectivement. C'est pas drôle, monsieur Cabrol. Cessons de nous mentir collectivement. Le corps d'une femme est ce qui intéresse l'homme, car c'est la matrice, c'est le réceptacle, sacré, le tabernacle de la fécondité.
Oh là 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 là.
Sois fier d'être un tabernacle de fécondité, Julie Leclerc, et laisse les travaux intellectuels à des gens comme moi. Oui, la France sortira grandie. Alléluia.
C'est bon, merci Philippe Demilly. Allez, pour terminer, on va parler tennis. L'édition de Roland-Garros 2020 est vraiment très particulière. Plus le temps passe, plus les conditions empirent. Bonjour Nelson Montfort.
Oui, bonjour Madame Julie, est-ce que vous m'entendez ? Je n'ai pas de masque, je parle doucement, excusez-moi, car je ne voudrais pas, comme hier, que les joueurs me prennent pour cible et me lancent des balles, car je parlerai trop fort, alors que nous avons à l'instant un échange. Un magnifique revers, très très beau revers, que nous avons à l'instant en pleine ligne. Vraiment.
Ta gueule. Passe-moi une balle, on va faire
un jour. Non.
Raté. Oui, écoutez, oui, mais jeune homme, il faut tenir compte du vent. Hein. Oui, vous en parliez. Le temps empire, mais vous le voyez, on s'adapte entre deux bourrasques. Déjà, bonne nouvelle, les joueurs français gardent leurs fondamentaux. Gaël Monfils aurait pu être déstabilisé par ces mauvaises conditions. Le vent aurait pu ramener ses balles dans le cours, mais non. Gaël a su trouver les ressources pour satelliser la plupart de ses balles dans les bâches. Bravo, Gaël!
Alors, à part les défaites françaises, qu'est-ce qui se passe d'inhabituel de nouveau, cher Nelson?
Alors, excellente question, ma chère Julie. Bien écoutez, ma chère Julie, effectivement, la pluie, le vent, la grêle, la neige changent légèrement la physionomie des matchs, mais aussi le profil des joueurs. J'en veux pour preuve les deux prochains simples. Rafael Nadal va rencontrer Mike Horn sur le central et Djokovic va affronter Jean-Louis Etienne sur le Suzanne Lenglet.
Non, mais pardon, Mike Horn et Jean-Louis Etienne, ce sont des explorateurs, pas des tennismen.
Oui, merci, je suis au courant, mais les trois quarts des tennismen se sont barrés, ma chère Julie. Je vais vous dire la vérité, il faut bien trouver des gars habitués à des conditions extrêmes. Alors à lundi pour la suite de ce tournoi qui s'annonce de plus en plus insolite. À vous Paris.
Merci Nelson Montfort.